Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 108e épisode du podcast Hypercroissance. Si vous aimez les épisodes qu'on sort chaque semaine, on vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez en savoir plus sur la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. On est de retour aujourd'hui pour la deuxième partie de mon panel d'affaires avec Julien Brault et Félix Deschâtelet. Si vous avez raté la première partie du podcast, je vous invite à aller écouter le 104e épisode du podcast Hypercroissance, une discussion fascinante d'une trentaine de minutes. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et merci encore une fois d'être avec nous pour ce nouveau concept de panel d'affaires, un concept qu'on a reçu beaucoup de bons commentaires jusqu'à présent. Bonne écoute! Félix, je te pose la question. Là, on va changer un petit peu de sujet. On va parler d'expansion. Et je pense que je commencerai directement avec toi aujourd'hui. Je sais que dans le passé, aller s'intégrer au niveau de l'assurance en ligne, dans les marchés pan-canadiens, ça demandait une logistique, surtout au niveau juridique, qui était totalement distincte de ce qui se déroulait au Québec. Ça t'a donné des enjeux au niveau de l'accélération. Tu pouvais pas prendre les parts de marché à la même vitesse. Également, un autre point qui serait important d'amener à notre audience aujourd'hui, tu es dans le volet des marchés financiers depuis un bon bout de temps déjà, donc tu t'es bâti une communauté, tu t'es bâti un réseau à travers le temps. Donc, lancer MA au Québec était quelque chose qui était aussi plus facile dans cette optique-là. J'amène ça à l'audience aujourd'hui et je te renvoie la question. Comment ça se déroule maintenant une expansion pan-canadienne pour une entreprise comme la tienne avec les deux points que j'ai dit, comme quoi que votre communauté est au Québec et qu'il y a des enjeux un petit peu juridiques à s'étendre dans le reste du Canada?
T'sais, tout le réseau qu'on va se bâtir à travers le temps, de l'expertise, mettons, comme au Québec ou n'importe quel marché local dans lequel on a peur, je pense qu'il est super utile pour faire le premier 100 000 par année. Mais après ça, quand tu veux sortir de ce réseau-là ou que tu as besoin de générer de la valeur, mais qui passe pas nécessairement par toi, l'individu, que ce réseau local-là, c'est un petit peu plus difficile. Parce que maintenant, pour que tu fasses du transfert de crédibilité, il faut que les gens ils trustent une entreprise et non un individu. Fait que ça va peut-être donner un petit raccourci pour aller chercher un premier revenu, mais pas nécessairement bâtir une entreprise. Fait que, au final, la seule chose qui fonctionne pour bâtir une entreprise, c'est le product market fit. Une fois que tu as ça, puis que le client il arrive sur ton site, sur ton app, puis qu'il voit la valeur, qu'il est prêt à mettre son argent, puis qu'il est prêt à en parler à ses amis, puis de eux répéter la même expérience, d'en parler à des amis, puis répéter l'expérience, c'est là que tu as quelque chose d'intéressant, puis tu peux aller chercher l'expansion. Fait que, si tu n'es pas capable d'avoir un product market fit dans ton réseau local, tu l'auras jamais à l'extérieur. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il faut penser un petit peu plus produit, besoin du client, c'est quoi les attentes, puis d'aller itérer différentes features, puis de parler avec eux. C'est bien important de pas juste dire, je mets quelque chose en ligne, puis je me croise les doigts que ça va passer. C'est mettez le produit en ligne le plus de base possible qui vous permet de communiquer avec le client. Moi, c'est une des raisons pourquoi Emma, au départ, on n'a pas lancé une app qui permettait d'acheter une assurance vie sans parler à un agent. Nous, il fallait absolument passer dans un chat. Parler avec un agent avec nous. De un, ça me permettait de respecter la réglementation au Canada, mais ça me permettait aussi d'apprendre sur le client. Fait que là, on testait plein de choses, des discours, des questions. On leur demandait quel type de produit ils voulaient, c'était quoi leur famille, qu'est-ce qui les avait amenés à acheter une assurance vie en ligne, pourquoi ils n'ont pas fait affaire avec un agent. On les a même référés avec des partenaires externes pour voir si on est juste quelqu'un qui va générer une business qui génère des leads pour les autres acteurs d'industrie, est-ce que ça fonctionne bien, les avantages et inconvénients des différents modèles. Puis une fois qu'on a pris toute cette data-là, mais c'est là qu'on a dit, bon, ben, maintenant, ce qui fonctionne, c'est de bâtir pour nous, nos besoins à nous, notre propre produit qui a telle caractéristique. On le met en ligne, puis du jour au lendemain, quand on a mis ce produit-là en ligne, on a eu 500% de croissance en 24 heures. Puis là, ça n'a jamais arrêté au niveau de nos chiffres. Parce qu'on savait un peu plus qui était où le product market fit. Est-ce que ces résultats-là nous ont mis en confiance d'aller sur le marché ontarien, canadien, anglais? Absolument. Mais quand on est arrivé sur ce marché-là, il manquait quelque chose. Il était beaucoup plus tech-savvy. Il voulait plus de technologie. Il voulait moins parler avec des humains. Donc là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on a seulement une expérience qui passe par la relation de chat, la conversation, on allait être limité parce que les gens nous le disaient spécifiquement dans le chat, les Ontariens. Pourquoi j'ai besoin de parler avec un agent aujourd'hui? Je veux juste l'acheter maintenant, mon assurance. Je veux pas parler avec personne. Donc là, on a lancé une nouvelle itération cet été, qui est, bon, un achat 100% en ligne, sans l'intervention d'un agent. Chose qui n'était pas le modèle d'affaires initial.
Mais vous avez le droit de faire ça parce que tu me disais à la base que c'était pas quelque chose qui était encore dans les lois au Canada.
Ben, ce n'est pas dans les lois au Canada dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes provinciaux qui se sont positionnés sur la question. Donc okay. Là, ce qu'ils disent, c'est respecte les règles de base et normalement, ça devrait être légal. Mais on va te dire la vérité le jour qu'on va t'enquêter. Donc, de ce côté-là, est-ce qu'à quel point ça va être accepté dans l'état actuel des choses? On le sait un peu, mais plus ou moins. Donc là, ça va être une question bien intéressante à suivre à travers les années. Mais au final, il y a des règles de base à respecter. Une fois que ces règles de base-là sont respectées, on peut faire l'expérience que le client s'attend, mais dans ce carré de sable-là. La seule province qui a défini le carré de sable, c'est le Québec.
Mais c'est ça, Félix, me semble, depuis la loi 141, c'est possible de vendre sans agent pour les produits simples. Il faut définir c'est quoi, mais je pense que votre produit est plus simple que la moyenne.
Non, exact, mais c'est ça. Avec la loi 51, maintenant, on peut le faire. Par contre, la première version de la loi 51 et comment on pouvait appliquer les principes de la loi dans un outil technologique, ça, c'était un tout autre défi, là, de traduire la loi et d'en faire une expérience que le consommateur, il veut vraiment acheter. Puis ça nous a pris quand même un bon 12 à 18 mois avant de trouver comment on pouvait, quel angle on pouvait prendre pour respecter l'ensemble des critères. Oui, du consommateur en premier, mais aussi est-ce que ces critères-là se rencontrent les critères de la loi. Cette traduction-là n'a pas été si simple que ça.
Julien, j'amènerais ça de ton côté ici. Donc, c'est important pour que les gens qui nous écoutent aujourd'hui soient capables de bien comprendre. T'as bâti une communauté sur LinkedIn à travers les années qui est assez robuste. Pendant très longtemps, tu faisais des vidéos quasiment à chaque jour pour préparer ton audience. Ultimement, bon, on voyait que derrière, tu allais lancer une ronde de financement participatif. Très bien joué d'ailleurs, très bonne stratégie. Donc, encore une fois ici, communauté qui te suit, communauté francophone. Et toi, par la suite, bien entendu, on veut que j'imagine tu veux que Art Bacon soit capable de s'intégrer au sud de la frontière, dans les autres provinces canadiennes également. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu as eu peut-être des enjeux au niveau peut-être de la loi, comme Félix a pu le mentionner? Comment ça se déroule de votre côté?
En fait, c'est ça, étant un ancien, pour revenir en arrière, j'étais un ancien journaliste du journal Les Affaires, fait que j'avais déjà une petite notoriété qui a fait en sorte qu'au début, ça m'a vraiment aidé. Tu sais, quand on a lancé le newsletter, je pense qu'on s'est rendu à 1000, 2000 assez rapidement. Donc, c'est le cercle immédiat. Tu sais, cet avantage-là est là au début, mais il s'épuise assez rapidement. Et tu sais, je suis souvent invité dans les médias au Québec. Donc, même encore aujourd'hui, c'est comme plus facile d'acquérir un abonné courriel ou un utilisateur de notre application est quand même un peu moins cher au Québec que dans le reste du Canada. Puis l'autre enjeu, c'est la langue. Tu sais, je suis capable d'écrire en anglais, mais j'écris mieux en français. C'est ma langue maternelle. Aujourd'hui, je suis content parce que pendant longtemps, on était vraiment une compagnie québécoise, même si depuis le début, notre application était disponible en anglais, puis on faisait un peu de contenu en anglais. On en faisait moins. Mais là, depuis justement notre dernière ronde de financement, notre directrice du contenu, c'est une anglophone qui parle quand même bien, très, très bien français. On a une rédactrice, notre première employée à l'extérieur du Québec est à Winnipeg, qui est une super rédactrice finance personnelle. Et aujourd'hui, on est à peu près à 50% Québec, 50% Canada anglais, parce qu'on focus seulement sur le Canada pour l'instant. Et oui, pour répondre à ta question, le fait que la réglementation, surtout en finance, est différente dans chaque province, c'est un enjeu. Une des choses qu'on a faites dans les créneaux assurance auto-habitation, on a fait une alliance avec Rates.ca, qui est un joueur canadien, mais qui est pas présent au Québec. Donc, plutôt que de développer ce volet-là nous-mêmes, étant donné qu'on est dans tellement de verticales, on s'est dit qu'on le fait en partenariat. Et même là, il faut adapter les choses parce que l'assurance auto, c'est complètement différent d'une province à l'autre. Il y a des provinces où c'est carrément le gouvernement qui te le vend et c'est obligatoire, donc il n'y a pas vraiment d'opportunité d'affaires. Donc, il faut être capable de reconnaître avec l'adresse IP, t'es de quelle province, etc. Ça rend les choses plus compliquées, mais en même temps, tu sais, nous autres, on s'est rendu compte au début, on pensait que c'était l'application qui attirait le trafic. Aujourd'hui, c'est le contenu qui attire le trafic. Et ensuite, la personne se dit, OK, ben tu viens de répondre à ma question de finance personnelle. Puis là, tu vois un call to action. By the way, t'as une application, tu peux connecter tous tes comptes, puis on va t'aider à mieux gérer pour le long terme. Fait qu'en fait, l'application est notre mécanisme de rétention et le contenu est notre mécanisme d'acquisition client. Donc, tu sais, d'une part, la complexité, ça rend les choses plus coûteuses, plus complexes à maintenir. De l'autre, ça fait en sorte que c'est quand même... Tu sais, ça crée une barrière à l'entrée. Oui, c'est facile, n'importe qui pourrait faire du contenu sur les finances personnelles avec un blog. Par contre, si on commence à dire, OK, il faut reconnaître les adresses IP puis avoir des versions du contenu, tu sais, techniquement, si tu veux être parfait, t'aurais des... Nous autres, c'est en général, le contenu Québec, on le fait français-anglais, mais le contenu Manitoba, on le fait juste en anglais.
Je comprends.
Mais ça pourrait mener, si tu veux être français d'un océan à l'autre, admettons, comme les banques tiennent à faire, ben là, ça serait, t'aurais 20 variations juste pour, admettons, un contenu sur comment aller chercher les meilleurs prêts étudiants, par exemple. Ça va être différent dans chaque province et ensuite, il y a deux langues. Fait que ça rend tout un peu plus complexe. Mais justement, c'est une force. Puis l'autre chose aussi, c'est que nos compétiteurs, surtout au niveau référencement client, la plupart, soit qu'ils ont carrément aucun contenu français, ou ils ont un petit peu de contenu traduit, mais la réalité québécoise est quand même mal reflétée parce qu'on parle de contenu qui a été écrit à Toronto puis traduit en français. Donc, nous, oui, le marché québécois est plus petit, mais pour nous, c'est important. Puis, tu sais, même à mesure où j'ai hâte qu'on soit moins que 50% de notre chiffre d'affaires puis notre trafic soit au Québec, mais on n'arrête pas. Ça serait facile de juste focusser sur dire qu'il faut grossir le Canada anglais. Parce que avoir un avantage, tu sais, monstrueux au Québec est important dans notre modèle d'affaires parce que ça contribue à nos compétiteurs, l'idée, c'est de bâtir l'espèce de moat ou de barrière la plus haute possible pour que ça soit évident pour tout le monde au Canada que, tu sais, aller faire du lead generation dans les verticales financières au Québec, ça va être dur parce qu'il y a un joueur dominant qui s'appelle Arbacon, et c'est plus facile de battre tous nos compétiteurs au Québec que d'aller les battre en Ontario. Puis d'ailleurs, notre stratégie, c'est on focus beaucoup sur l'Ouest au Canada anglais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des sujets qui sont pas en canadien. Donc, la majorité du trafic va venir de l'Ontario, de manière logique. Mais on essaie beaucoup de regarder des sujets, notamment sur les coopératives financières, sur les assurances, etc., qui sont spécifiques à l'Ouest parce que l'Ouest, un peu comme le Québec, très mal servi par le marché puis par les sites d'information sur les finances personnelles.
Et messieurs, juste avant d'arriver au dernier point, j'aimerais vous entendre les deux. Vous me dites depuis le début de la discussion aujourd'hui que vous avez l'air d'investir beaucoup de temps, beaucoup de ressources sur la création de contenu. Je commencerai avec toi, Félix. Est-ce que c'est ça, au final, votre levier marketing numéro un, le contenu, le SEO? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez peut-être même le futur de l'acquisition de clients chez Emma?
Je pense que ça va être un pilier. Est-ce que c'est le futur ou l'élément qui fait qu'on se démarque? Je penserais pas pour nous, du moins. Je pense que pour Julien, c'est beaucoup plus évident, là, étant donné qu'il aide les gens dans leurs finances personnelles. Puis l'éducation financière, c'est hard bacon. Si on peut utiliser un autre mot, c'est éducation financière pour bien décrire ce qu'ils font. Nous, de notre côté, l'élément qui démarque, c'est beaucoup plus la créativité. Souvent, on aime dire que la créativité fait partie de notre DNA. Donc, que ce soit autant la création de contenu qu'une ad comme à KF, qu'une une relation avec un influenceur, comment qu'on commandite un podcast, les deals qu'on va structurer vont souvent être créatifs pour qu'on puisse se démarquer. Puis, ce que j'aimais dans ce que Julien il disait, il y a beaucoup d'identification de niche de contenu qui est intéressant. Si on prend les prêts étudiants, on y va pas en canadien, mais tu vas compétitionner tout le monde qui fait des articles sur les prêts étudiants. Mais quand tu fais un prêt étudiant spécifique pour les étudiants qui sont en Alberta dans telle université, ben t'es tellement niché que tu vas répondre à une question qui leur brûle les doigts puis qui est très très aligné avec leur situation personnelle. Fait que c'est là que ton contenu va se démarquer. Puis ça demande pas nécessairement de juste créer du contenu, plus que d'être créatif dans son thinking stratégique, la stratégie de création de contenu. Fait que nous, c'est plus la créativité, oui, dans la création de contenu, dans les ads qu'on fait, dans les deals qu'on négocie avec les influenceurs. Tu sais, une de nos stratégies marketing qui a le plus fonctionné, c'est, on parlait avec une influenceur qui chante, qui s'appelle Raphaël Roy. Elle écrit une chanson sur l'assurance vie. On n'a jamais, jamais, jamais eu autant de trafic à un coût aussi faible que cette stratégie-là. On a même vu des vidéos sur YouTube d'enfants qui avaient une brosse à cheveux et qui chantaient la chanson de Emma sur l'assurance vie. Puis il y a des clients qui nous envoyaient ça. Ça, c'est plus une idée créative qu'une idée qui était ouais. Bon, ben, on va faire du contenu. On parle avec les créateurs et on dit bon ben, comment toi tu viendrais véhiculer ce message-là? Puis on essaie. On essaie. Puis tu te laisses surprendre par les résultats.
Vous limitez pas. Et toi, Julien, c'est Qu'est-ce qui fait l'ADN marketing de Hard Bacon, selon toi?
Mais c'est intéressant comme question parce qu'en fait, on a vraiment fait un changement de cap, notamment avec notre pivot au niveau du référencement client qui est devenu notre principale source de revenus. Mais justement, au début, en me disant « OK, ben tu sais, j'ai aucune chance de compétitionner », puis j'avais tort. J'aurais dû savoir que j'aurais pu compétitionner beaucoup plus facilement que je pensais avec justement l'industrie. Au niveau SEO, ben, on misait plus sur les médias sociaux, puis on a fait des campagnes. Je pense que c'est le crowd qui a trouvé notre slogan, puis c'est un prix de 1 000 $ pour trouver notre slogan, puis ça a impliqué plein de monde. Fait que ces initiatives-là sont le fun à court terme, génèrent beaucoup de trafic pas cher. Mais une fois que c'est fini, ben ce trafic-là, tu sais, oui, tu fais du branding, il y a du monde peut-être qui se souviennent de toi, mais c'est pas à long terme. Donc au début, on a fait plein de campagnes cool qui étaient plus designées pour les médias sociaux. Puis j'aimerais ça en faire plus. Aujourd'hui, on travaille plus au niveau puis contenu, comme tu disais, c'était l'objet de ta question. Puis par contenu, il y a des gens qui disent du contenu, c'est ça peut être un article ou une vidéo. En fait, le contenu, c'est quelque chose qui crée de la valeur pour les gens. Moi, je considère que l'application Hardbacon, c'est du contenu. C'est un logiciel. Ça te recommande des meilleurs produits financiers. Tu peux faire ton budget, etc. Un autre projet de contenu qu'on n'a pas encore lancé puis qu'on devrait lancer dans les prochaines semaines, c'est qu'on lance une 30aine de calculatrices financières pour répondre à toutes sortes de besoins, que ce soit est-ce que je peux me qualifier pour acheter une maison? Quand est-ce que j'aurai fini de payer mes dettes? En tout cas, il y en a une 30aine. Et ça, c'est du contenu. L'idée, et c'est là où, tu sais, une campagne, ça crée un peu, je trouve que ça crée un peu moins de valeur. C'est peut-être du divertissement, c'est le fun, les gens, ont l'impression de faire partie d'un mouvement. Mais à quel point tu as généré de la valeur autre que peut-être un sourire dans leur vie, ou si le gagnant du concours, admettons qu'on parle d'un concours, ben là il est content parce qu'il y a un peu d'argent. Tandis que l'idée, c'est que quand tu crées de la valeur avec du contenu, que ce soit du contenu logiciel ou des articles, c'est plus long terme aussi. Donc t'as un impact, l'impact à court terme est un peu moins grand. Mais si t'as un super article qui fait en sorte que les gens qui se demandent comment utiliser le REER comprennent tout. Tu crées beaucoup de valeur parce que probablement que tu leur fais économiser beaucoup d'argent. Et deux, l'article, peut-être que dans 2 ans, on va continuer à le mettre à jour, ou la calculatrice financière va être encore utilisée, il va y avoir des link backs, etc. Donc, je te dirais que oui. Puis l'autre chose aussi qu'on fait beaucoup, c'est du PR, parce que justement, ça génère plus de trafic. Cela dit, si j'avais levé 100 millions comme d'autres startups, on aurait l'énergie pour faire plus d'initiatives virales, médias sociaux, et plus de PR et plus de SEO, etc. Mais je te dirais qu'on a switché, puis on en fait moins des choses médias sociaux, puis on fait plus justement des initiatives de contenu ou d'outils qui créent de la valeur. Une autre chose qu'on a commencé récemment, c'est de faire des sondages. Comme on a une T'sais, on rejoint beaucoup d'utilisateurs, on peut pousser des sondages à ces gens-là, et là, ben, on fait un communiqué, puis on dévoile les statistiques sur les finances personnelles, parce que c'est un sujet tabou. Donc, moi, je trouve que autant, bon, c'est peut-être un peu plus complexe, il y a des gens qui aiment pas entendre parler de finances, mais j'ai l'impression que ça a plus d'impact. Si on était focusé sur aider les gens, je sais pas, à voyager ou à mieux manger, j'ai l'impression que bon, il y aurait peut-être un peu moins de difficultés, mais je trouve que justement c'est ce qu'on fait est souvent unique parce que c'est complexe de faire des initiatives en finance.
Intéressant. Merci beaucoup pour ces belles réponses, messieurs, et je terminerai avec toi, Félix, ici, et par la suite j'enchaînerai avec Julien. Il y a tellement de choses qui se disent en ce moment, il y a tellement de choses qui changent dans l'environnement financier. C'est clairement un sujet que n'importe quel citoyen est au courant en ce moment. Quel est, selon toi, l'avenir des services financiers avec ce qui se passe au niveau de la crypto-monnaie, avec ce qui se passe au niveau de tout l'engouement, on dirait, qui est en train de se dérouler, ou c'est peut-être uniquement le syndrome du shiny object au niveau des NFT? Comment vois-tu l'avenir des services financiers en général? À quoi ça va ressembler dans les prochaines années, selon toi?
Ben moi je te dirais, je pense, hein, j'étais un grand croyant que l'industrie va se fragmenter là, de plus en plus avec les années à venir. Là. Fait que les grosses institutions financières qui dominent le marché, qui offrent l'ensemble de tous les produits, je pense qu'ils vont avoir de plus en plus de difficultés avec le temps parce que c'est rendu. Les barrières à l'entrée, oui, sont grandes avec la réglementation de la technologie, mais ça a aussi jamais été aussi facile d'aller rejoindre le consommateur. Quand on regarde l'industrie puis l'engouement que par rapport à tout ce qui est crypto-monnaie, si l'angle est bon puis répond à un vrai besoin, ben il y a une business potentielle qui peut se créer. Puis après ça, ben ce que la crypto-monnaie amène aussi comme opportunité, c'est la fragmentation de la chaîne de valeur. Puis là, ben c'est tout ça va être super intéressant à suivre. Mais je pense s'il y a des jeunes entrepreneurs qui écoutent ton podcast, ça doit être le cas. La fintech, on manquera pas d'idées, là. Même si on pense qu'on a adressé toutes les verticales, là, il va toujours en avoir, mais ça part toujours de la même chose. C'est qu'une fois qu'on a une niche qui est bien identifiée, il y a une façon d'aller adresser cette niche-là, puis il y a une business à faire là-dedans. Est-ce que c'est une business qui va valoir 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards? Peut-être pas. Mais ça peut être quand même une très, très, très belle entreprise qui peut être créée. Fait que moi, je pense qu'on va avoir une industrie qui, tantôt, les gens vont avoir plusieurs types de produits financiers. Est-ce qu'il va avoir un agrégateur qui va permettre de tout connecter pour un peu comme Square Beacon fait, là, de linker les cartes de crédit, des comptes bancaires pour avoir une vision globale? Je pense que certainement il va y avoir un joueur comme ça qui va se démarquer tantôt, qui va être dominant. Mais après ça, tout ce qui va se connecter à l'intérieur de ça va être très, très, très fragmenté.
Et toi, Julien, je serais curieux de t'entendre là-dessus.
Ben là, Félix m'a pas mal enlevé les mots de la bouche. Effectivement, tu sais, je vais quasiment reformuler qu'est-ce qu'il a dit. Tu sais, la fragmentation, pour moi, c'est oui, la barrière à l'entrée est plus basse, donc il y a plus de compétition, mais je dirais que c'est justement parce qu'il y a plus de compétition, les compétiteurs arrivent un peu comme Emma, ils se focus sur un segment de marché, fait que c'est pas juste un produit. Tu sais, en général, les compagnies d'assurance font plein de produits d'assurance et ils déclinent ces produits d'assurance-là à plein de marchés. Donc, quand tu es hyper focus en disant « OK, tu sais, moi, je connais mon client puis je parle à tous les jours », puis, tu sais, en général, il y a une barbe, puis les soins de barbe, j'ai aucune idée si tes clients ont des barbes, puis c'est aussi de leur barbe, mais l'idée, c'est que c'est sûr que tu vas être bien meilleur pour leur parler, pour les acquérir, si tu les connais, et c'est impossible de connaître tous les Canadiens. Donc, et l'autre chose, c'est que la nouvelle génération était habituée à des services technologiques qui fonctionnent, ce qui est pas toujours le cas des produits technologiques que les institutions financières traditionnelles lancent. Donc, selon moi, la tolérance va être beaucoup moins grande à des produits qui sont pas bons, qui sont en bas de ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc, effectivement, les gens, selon moi, vont aller chercher le meilleur produit, le meilleur fournisseur en assurance vie. Peut-être que l'assurance auto va être un autre assureur, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une partie. L'autre partie, moi, je pense qu'on est en train, tu sais, la COVID a changé un peu le monde de l'investissement. Nous autres, c'est drôle, c'est comme ça qu'Arbakan était parti autour de l'investissement. Comme il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'Arbakan, c'est une app de boursière. Oui, on peut connecter ses comptes d'investissement et suivre des titres, mais on est vraiment généraliste. Mais et c'est ça, tu sais, je regarde ce qu'on faisait en 2017, puis on essayait d'acquérir des gens, puis de viser des jeunes investisseurs autonomes, puis on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas tant que ça. Autant aujourd'hui, il y en a des tonnes, puis il y a deux facteurs. Bon, il y a la COVID, où il y a beaucoup de gens qui ont découvert la bourse. Là, il y avait des frais de transaction, donc quand tu n'avais pas beaucoup d'argent pour investir en bourse, c'était pas très payant, puis même, c'était probablement pas une bonne idée. Aujourd'hui, tu sais, il y a Dysnat, Banque Nationale, puis Wealthsimple qui offrent des transactions sans frais en bourse. Donc, il y a tout un nouveau profil d'investisseur qui s'est mis à investir en bourse. Et je dirais, c'est pas étranger à ça, c'est l'engouement pour les crypto-monnaies. Nous autres, dans un sondage, on a vu que 28% des investisseurs qu'on a sondés avaient dans leur portefeuille des crypto-monnaies. Ensuite, c'est très spéculatif. J'ai aucune idée. Est-ce qu'il va y avoir un crash? Est-ce que ça va continuer à augmenter? Je prévois pas le futur, mais ce que je sais, c'est que déjà, ça a façonné une nouvelle génération d'investisseurs. Fait que, tu sais, soit que ça continue puis qu'il va y avoir peut-être des crypto securities, donc des titres qui vont peut-être, tu sais, distribuer des revenus, ce qui existe plus pas vraiment de manière mainstream là, dans le monde des cryptos. Soit que, tu sais, ça va dépendre beaucoup de la réglementation. Peut-être que les cryptos vont venir prendre une grosse place ou peut-être pas, mais dans tous les cas, le mal ou le bien est déjà fait. Ils ont convaincu plein de gens de se poser des questions sur, que ce soit sur l'inflation, que ce soit sur les frais chargés par les banques traditionnelles. Donc, selon moi, on va avoir une génération qui va pas juste accepter que, tu sais, leurs parents étaient chez la banque Y, puis qu'eux autres vont être chez la banque Y pour toute leur vie, pour tous les produits, peu importe la qualité du service. Donc on va assister à une génération plus proactive et qui investit probablement plus, que ce soit en crypto, en equity crowdfunding, en bourse, etc., mais des gens qui sont plus, qui prennent les choses plus en main.
Fascinant. Et messieurs, ben je terminerai en vous demandant, comment qu'on peut vous aider aujourd'hui? Comment qu'on peut en apprendre plus sur Arbakan? Comment qu'on peut en apprendre plus sur Emma? Félix, je commencerai avec toi.
Bien sûr que pour Emma, là, le emma.ca, emma.ca, c'est la meilleure façon d'en apprendre sur l'entreprise. Puis comment vous pouvez nous aider? La façon est super simple. Vous connaissez sûrement des gens dans votre entourage qui ont une famille, qui sont en train de bâtir ce projet-là ensemble. Puis c'est des gens qui vont avoir des besoins d'assurance-vie. Fait que moi, je vous dis pas de leur vendre la solution à moi comme étant la meilleure, mais de leur dire, considérez cette option-là, venez parler avec nous pour voir que c'est une possibilité. Après ça, ce qui est le fun avec Emma, c'est que oui, on peut vous recommander Emma quand c'est adapté à vous, mais on reste également courtier. Fait que si c'est un produit de l'Expert Alliance que vous avez besoin, on va vous recommander le produit de l'Expert Alliance pour vous guider. Fait que d'aller à une place pour avoir le bon conseil, c'est avec Emma.
Merveilleux. Et toi, Julien, comment les gens peuvent en apprendre plus sur Heartbacon? Peut-être même que vous avez des postes ouverts. La parole est à toi.
Non, écoute, j'ai passé quasiment toute l'année à recruter, puis là, on a recruté qu'est-ce qu'on avait besoin de recruter. Donc, premièrement, tu sais, pour en apprendre plus, je dirais, essayez-le. Prenez votre iPhone, votre Android, allez sur Google Play, App Store, téléchargez Heartbacon, connectez vos comptes, puis commencez à améliorer vos finances personnelles. Sinon, vous pouvez aller sur heartbacon.ca, on a plein de contenus sur les finances personnelles, vous pouvez vous abonner à notre infolettre, comme ça vous forcer à recevoir du contenu intéressant sur les finances personnelles. Puis, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, comme tu as mentionné, Antoine. J'ai beaucoup de monde là-dessus. Donc, puis Heartbacon aussi, il y a des médias sociaux. Fait que c'est à peu près ça. Puis, si vous voulez m'écrire, c'est julien@heartbacon.com.
Même chose sur LinkedIn. Si vous voulez m'écrire, gênez-vous pas, ça me fait plaisir.
On mettra les liens de vos comptes LinkedIn dans les notes de l'épisode, messieurs. Merci énormément. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.